On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
J'aime, je n'aime pas.
Entre la soupe des paysans, entre la truffe de Héberlin, j'ai dit, tiens, on peut peut-être faire une soupe aux truffes. Et c'est comme ça que la soupe aux truffes est venue. Voilà. Et je crois que c'est un plat qui a fait le tour du monde, mais je ne peux pas dire que c'est une invention.
J'aime, je n'aime pas.
Une cuisine qui ne... de régime, mais qui serait le contraire d'une punition, c'est-à-dire une cuisine de plaisir, le plaisir étant en soi une forme de thérapie.
J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « mon corps n'est pas le même que le vôtre ».
Aujourd'hui, on vous raconte une très belle aventure de gastronomie qui fleure bon la nouvelle cuisine avec une louche de Roland Barthes, un petit peu de Michel Guérard et puis bien entendu un gros morceau de Paul Bocuse par la force des événements. C'est l'histoire de notre invité Benoît Peters. Bonjour.
Bonjour.
Les Bédéphiles vous connaissent comme l'un des meilleurs spécialistes de Hergé, mais également comme le co-créateur d'une série culte, Les Cités Obscures. Les amateurs de lettres et de philosophie vous connaissent aussi comme un spécialiste de Derrida, de Paul Valéry, Roland Barthes, Rob Grillet. Vous êtes également romancier. Mais ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes un gastronome passionné. Vous cuisinez même comme un chef. Comme un chef, c'est le titre de la bande dessinée qui raconte votre incroyable conversion gastronomique. Et c'est aux éditions Casterman dans la collection Écriture. Celle qui co-signe cette aventure, avec des dessins sensibles, vivants, expressifs, c'est Aurélia Horita. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va plonger dans cette fabuleuse aventure culinaire pleine de rebondissements et une aventure qui fait également saliver. Vous nous avez d'ailleurs apporté de jolies choses à déguster. Deux chroniqueuses autour de ce plateau, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Un écrivain cuisinier, ou plutôt non, une écrivaine cuisinière, aujourd'hui au menu de votre chronique.
L'auteur de Un barrage contre le Pacifique.
Ah, Marguerite Duras.
Ouais.
Qui savait cuisiner et comment?
Très bien.
La preuve dans le saladier?
La preuve, ouais. Enfin, j'espère.
Déborah Dupont, bonjour.
Bonjour.
Au menu?
Au menu, mais qu'est-ce que mangent les chefs le dimanche? Ah, ça tombe bien.
Peut-être bien un peu de tatin, non?
Un peu de tatin et puis plein de choses, mais un peu mieux que nous surtout.
Ah oui, bah, écoutez, on va voir ça avec vous. En tout cas, ça a l'air bien. Hein.
C'est pas mal,
à priori. Ce qu'il y a dans votre assiette, très bien. Derrière la console pour cette émission en direct, Laurent Thomas, Elisabeth Collet, Nadia Chougui, franceinter.fr à la page On va déguster pour retrouver nos infos pratiques, nos recettes et le podcast de l'émission. Et pour réagir, notre mail On va déguster à radiofrance.com et Twitter avec le mot-clé On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
Il n'y a pas de recette Bocuse. Pour la bonne raison, toutes les recettes ont été faites, toutes les recettes ont été inventées. Mais ce qu'il y a, il y a des envies Bocuse. C'est-à-dire, si un matin je vais au marché et que j'ai envie de ceci, finalement c'est mes clients qui le mangent. Donc j'ai envie pour mes clients. La clientèle, c'est la clientèle qui fait un 3 étoiles. Parce que si vous avez un 3 étoiles où il n'y a pas de client, ça ne vous servira à rien si vous ne voyez personne. Mais si vous avez un 3 étoiles, c'est le client qui vous le fait, qui vous pousse à avoir 3 étoiles. Puis une fois que vous les avez, il faut les tenir.
Pour les Lyonnais, c'était le primat des gueules. Pour sa brigade et ses amis, c'était Monsieur Paul. Pour ses pères cuisiniers, c'était le chef des chefs, un père de cuisine dont ils sont désormais orphelins. Paul Bocuse s'en est allé hier à l'âge de 91 ans, après plus de 70 ans d'une carrière monstrueuse. Un titre de meilleur ouvrier de France dont il arborait fièrement le col tricolore. Plus de 50 ans de 3 étoiles Michelin, c'était un record absolu. Une école de cuisine à la renommée internationale, à Écully, près de Lyon. Un prestigieux concours de cuisine qui porte son nom, le Bocuse d'or, des restaurants à Lyon, aux États-Unis, au Japon, et ce coup de génie copié dans le monde entier, la fameuse soupe VGE, un consommé de bœuf et de poulet à la truffe noire, tuber mélanosporum, couvert d'une croûte de pâte feuilletée servie dans un bol. Paul Bocuse le servit à l'Élysée en 1975 quand Valéry Giscard d'Estaing lui remit la Légion d'honneur. Monsieur le Président, « on va casser la croûte », avait lancé Paul Bocuse, avec ce goût du bon mot dont il avait le secret. Éclat de rire général sous les ors du palais, mais quand on cassait à la cuillère ce capuchon de pâte feuilletée, on riait un peu moins, je peux vous le dire. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois, une odeur capiteuse de truffes noires vous agrippait les narines, c'était une expérience d'une sensualité rare. De Johnny à Monsieur Paul, décidément saletant pour les mythes français, avec au moins deux points communs entre nos deux héros nationaux. 1. Un charisme hors norme que Johnny Hallyday et Paul Bocuse puisaient tous les deux dans leur gentillesse naturelle, leur bienveillance et leur sens absolu de l'amitié. Michel Guérard, le chef 3 étoiles des Landes, complice de Paul Bocuse, me disait hier encore au téléphone, Paul Bocuse, c'était le saint Paul des évangiles, un être de bonté. Johnny et Monsieur Paul, c'était aussi deux surhommes qu'on croyait tous les deux immortels tant ils avaient réussi à se relever de lourds accidents de santé. Mais il y a une différence de taille entre Johnny et Monsieur Paul. Si le premier était une star strictement franco-française, la légende Bocuse faisait saliver bien au-delà de nos frontières. C'était un demi-dieu au Japon et une star de la French cuisine aux États-Unis, où il fut nommé d'ailleurs en 2011 chef du siècle par la prestigieuse école culinaire Culinary Institute of America. De nombreux chefs du monde entier devraient d'ailleurs assister à ces obsèques dans quelques jours à Lyon, le Rhône, mais aussi la Saône. C'était décidément le centre de gravité de Paul Bocuse, comme l'explique Jean-François Mesplède, ancien patron du guide Michelin et fin connaisseur du chef 3 étoiles.
Paul Bocuse dit toujours que c'est la Saône qui a guidé sa vie. Quand il s'endort, il veut avoir la Saône à sa droite. Vous parliez des petites phrases. On lui a dit un jour, mais vous êtes toujours dans la chambre où vous êtes né. Il dit oui, je dors toujours. Mais enfin, on a changé les draps. Il dit parfois, Lyon, c'est une ville qui donne faim. Et il dit aussi, il n'y a qu'une cuisine, la bonne, et je crois que c'est ça. Et je suis admiratif des gestes des cuisiniers, parce que c'est assez extraordinaire. Et Bocuse m'a dit, mais non, la cuisine, c'est pas ça. La cuisine, c'est amour et générosité. Et moi, j'avoue que ces deux termes, pour moi, ça situe tout ça. Et je fréquente beaucoup les restaurants, j'en fais à peu près 400 par an. Et j'ai pas trouvé toujours amour et générosité en cuisine, alors que je l'ai trouvé toujours chez Bocuse.
Le journaliste Jean-François Mesplède sur Paul Bocuse, c'était un extrait d'une émission hommage à Paul Bocuse que nous avions enregistré, vous vous en souvenez Elvira,
oui.
À Lyon, c'était en juin 2014 et vous pouvez la podcaster sur franceinter.fr. Déborah Dupont, vous êtes patronne de la librairie gourmande. Paul Bocuse était aussi évidemment un auteur prolifique de livres de cuisine avec quand même de gros succès d'édition à la clé.
Oui, effectivement, beaucoup de livres aux éditions Flammarion, qui a été l'éditeur, on va dire, historique, mais
et
aussi
officiel, oui.
Et officiel, et aussi d'autres grands chefs, comme Fernand Point, comme Escoffier. Donc il y avait vraiment une continuité pour Paul Bocuse d'être édité chez Flammarion. Donc je pense à La cuisine du marché, paru en 1976, qui a été maintes fois réédité. Bocuse dans votre cuisine aussi. Pareil, qu'on peut retrouver en version plus récente, même si les couvertures des années 70 et 80
quel charme.
Ont quand même leur petit charme. J'avoue,
c'est d'ailleurs
si vous pouvez les chiner.
C'est des livres vintage désormais qui ont leur valeur, hein, quand
oui.
Même sur les réseaux parallèles d'occasion, ça coûte bonbon, comme on dit.
Tout à fait. Et en plus récent, on a le best-of Paul Bocuse aux éditions Alain Ducasse,
oui.
Qui est très bien, puisqu'on retrouve la petite dizaine, on va dire, de recettes phares, dont la soupe VGE.
Le rouget en écaille de pommes de terre.
Exactement. Donc c'est vrai que ça fait très agréable. Ensuite, pour les personnes qui s'intéressent plus à la vie de Paul Bocuse, moi je conseille Le Feu Sacré chez Glénat, qui est une magnifique biographie de Paul Bocuse, où on apprend énormément de choses truculentes, car il avait effectivement son franc-parler. Et la petite interrogation que j'ai eue hier, tout à coup ça m'a un peu sauté aux yeux, de me dire, mais pourquoi Paul Bocuse n'a-t-il jamais publié dans la collection des recettes originales de chez Robert Laffont.
Et oui, la fameuse collection des années 70 qui regroupait, qui fédérait les Alain Sandrins, Michel Guérard, etc. D'ailleurs, Benoît Peters, vous les connaissez bien, ces livres-là, puisqu'ils sont évoqués dans votre bande dessinée.
Et effectivement, donc tous les chefs fer de lance de la fameuse Nouvelle Cuisine. Et j'ai posé la question justement à Jean-François Mesplède hier soir en lui disant, Jean-François, est-ce qu'il y a une raison? Et alors la raison, est-ce que vous avez une petite idée?
Allez-y.
Alors elle est liée à Claude Lebet, qui était en fait le directeur de collection des recettes originales 2, qui était aussi un collaborateur d'Hugo Émilio, avec qui Paul Bocuse ne s'entendait pas nécessairement très bien. Il avait une petite opposition quand même sur la question de la nouvelle cuisine.
Comment il les surnommait déjà, Hugo Émilio ?
Alors, il les a surnommés à un moment Chiot et Millot.
Oui, d'accord.
Donc voilà, mais bon, le botin gourmand était égratigné puisqu'il l'appelait le potin mourant. Donc, il avait une petite opposition quand même avec les guides. Mais c'est surtout Claude Lebet, en fait, de son vrai nom, s'appelait Claude Joly.
Absolument.
Et donc, Paul Bocuse n'avait rien trouvé de mieux que le surnommer Joly Stark en allusion à Johnny Stark, qui était l'agent de Mireille Mathieu de l'époque et qui était connu pour avoir des pourcentages assez élevés.
D'accord.
Donc on imagine bien qu'il n'a pas pu être publié dans cette fameuse collection.
Évidemment, donc il s'est tourné vers Flammarion.
pour le plus grand bonheur, je pense, d'ailleurs, des éditions Flammarion, puisque effectivement, ça fait partie des best-sellers.
C'est ça. Merci beaucoup, Déborah Dupont. Benoît Peters, vous qui vous êtes intéressé de très près à notre vie gastronomique depuis des décennies, Paul Bocuse, pour vous, ça évoquait quoi?
Dans ma jeunesse, au milieu des années 70, c'était déjà une légende, parce qu'il est le premier chef à devenir visible, à sortir de sa cuisine,
absolument,
à se montrer. Mais alors, ce qui est merveilleux, vous l'avez dit, c'est un chef de bande. Et à ce titre-là, il a accueilli, soutenu, défendu de toutes les manières, en France, à l'étranger, dans les médias, les autres chefs, même les plus innovateurs, à commencer par les frères Troisgros, bien sûr, par Alain Chapelle de Mionnet, par le jeune, à l'époque, Michel Guérard. Et là, il a joué un rôle absolument extraordinaire. On le voit notamment dans ce très beau film qui s'appelle La Révolution des Chefs.
Absolument.
Et il y a cette déclaration extraordinaire de Paul Bocuse, je m'en souviens. Il dit, il donne ce conseil, ne soyez jamais, si c'est une grande photo de groupe, ne vous mettez jamais au milieu, vous risqueriez de vous retrouver dans le pli de la revue avec les agrafes au milieu du nez. Ça, c'est tout Paul Bocuse qui disait aussi, cette phrase très jolie, j'ai deux bacs, un bac d'eau froide, un bac d'eau chaude.
Oui, alors ça c'était effectivement le champion de la punchline,
du bon
de la
mot,
formule.
Mais n'oublions bon pas, par-delà les côtés truculents du personnage, ce rôle de symbole qu'il a représenté, et puis aussi, biographiquement, un détail qui est très beau, très touchant, qui sort de la cuisine, qui est que c'est un très jeune résistant.
Absolument.
À 18 ans, qu'il a été très très gravement blessé, et donc voilà, je pense que homme de cœur, car blessé au cœur à ce moment-là, mais homme de cœur dans son engagement comme dans sa cuisine.
Soigné par l'armée américaine et tatoué de ce fameux coq par l'armée américaine à l'occasion de son aventure militaire, tout à fait dans le genre bon mot, il disait également de la nouvelle cuisine qu'il appréciait pas forcément. Rien dans l'assiette, tout sur l'addition. Ce qui était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il y a une confusion qui fait qu'on a...
C'est méchant et injuste. Hein.
Dans les médias, on vend, entre guillemets, Paul Bocuse comme le père de la nouvelle cuisine, alors qu'en fait, il y a quand même une ambiguïté que lui-même entretenait un peu. Paul Bocuse était quand même d'un classicisme, vous l'avez dit, Déborah, culinaire tout à fait époustouflant. C'était
mais
la gastronomie dans son flamboyance, le beurre, la crème. Il n'était pas vraiment nouvelle cuisine comme Michel Guérard,
mais
il était chef de bande.
Et c'est un rôle extraordinaire.
Et un rôle social, notamment. Merci, 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 monsieur Paul, pour tout ce que vous avez apporté à la gastronomie française, et bon appétit au paradis.
La cuisine française est la meilleure du monde. Cette cuisine, je l'aime. Et quand on aime, on partage. C'est ça le principal.
Que Bocuse, quand il aime, il aime.
On va déguster sur France Inter.
Alors, bon appétit à tous.
Only a man. Only a man. No.
Yomi Omai de Son Little, un titre choisi par notre ami Djoubaka. C'est drôle, c'est émouvant, c'est salivant, c'est intelligent, c'est à la fois terrestre et spirituel, c'est dire hein, l'enthousiasme qu'on a eu dans la fine équipe dont on va déguster pour Comme un chef, la bande dessinée que vous signez aux éditions Casterman, collection Écriture, Benoît Peters et Aurélia Horita. Alors c'est vrai que Benoît Peters, on vous connaissait comme créateur de bande dessinée, romancier, spécialiste d'Hergé, de Derrida, de Paul Valéry, on l'a dit, mais on vous attendait un peu moins sur le terrain culinaire. Pourquoi ce cooking out?
Oui, c'est une jolie formule, cooking out, ça me va bien. Écoutez, c'était une passion de jeune homme d'abord, c'est resté une passion d'adulte.
Ah bah ça, on va le constater, oui.
Ça a failli devenir mon métier. C'est-à-dire que jeune étudiant, ayant pris quelques distances avec mes études officielles, n'ayant pas préparé le concours de Normale Sup comme mes parents auraient voulu que je le fasse, étant parti sur des voies un peu parallèles quand j'étais l'étudiant de Roland Barthes et que je travaillais sur Tintin, je me suis bien rendu compte que je n'allais pas gagner ma vie comme ça. Et donc, à un moment où je suis installé en Belgique, j'ai un peu plus de 20 ans, mm-hmm. Oui, j'ai publié un premier roman, mais...
Aux éditions de minuit, quand même.
Mais oui. Ça ne va pas me faire vivre. Et donc, comme tout le monde me dit, tu cuisines comme un chef, je passe une petite annonce et je vais, pendant un an ou deux, préparer régulièrement des repas chez des particuliers, tout en rêvant d'ouvrir un restaurant. Et puis, la vie suivra un autre cours, je ferai quelques livres qui commencent à avoir un peu de succès, et la cuisine reste à ce moment-là une passion privée. Mais je dirais que vers 21-22 ans, j'étais aussi obsédé par la littérature que par la cuisine, cherchant à m'informer de tous les côtés, puisque j'avais pas vraiment les sous pour aller dans les grands restaurants dont je rêvais, donc c'était d'abord la lecture qui m'y introduisait, et puis c'est la lecture qui m'a introduit à la pratique, et notamment je voudrais rendre hommage à Michel Guérard, qui a été mon maître. Voilà, j'ai eu quelques maîtres dans ma vie, j'ai eu Roland Barthes pour l'aspect intellectuel, mais Michel Guérard, avec la partie théorique de ses livres, La Grande Cuisine Minceur, puis surtout La Cuisine Gourmande, qui me ravissait, en 150 pages, expliquait tellement clairement les modes de cuisson, les liaisons, les assaisonnements, les recettes de base, qu'à partir de ce vocabulaire-là, j'ai pu développer ma propre cuisine. Et ça reste aujourd'hui ma référence. C'est un des génies de la cuisine.
Culinairement, ça n'a pas été si facile que ça à apprivoiser, la cuisine de Michel Guérard. On évoque, pour ceux qui ne le connaissent pas derrière leur poste, évidemment ce champion, ce cerveau de la nouvelle cuisine, qui est encore en activité d'ailleurs dans ce restaurant à Eugénie-les-Bains, dans les Landes. Michel Guérard, 3 étoiles au guide Michelin et auteur de La Grande Cuisine Minceur, La Cuisine Gourmande. Il y a une liaison sans farine, pas évidente. Hein.
Alors, ce qui était difficile avec La Grande Cuisine Minceur, c'était les liaisons au purée de légumes et notamment la liaison au purée de champignons. Oui. Alors, je n'avais peut-être pas le même outil que Michel Guérard, mais j'ai essayé 5 ou 6 fois. Ma compagne actuelle, qui est passionnée de cuisine, avait essayé elle aussi, et aucun de nous n'est arrivé. C'était un peu trop granuleux. Il n'empêche que, à part cette petite chose, je vous assure que tous les grands principes de cuisson, par saisissement, par échange, tous les grands principes de liaison à l'œuf, à la crème, mais aussi les liaisons faites de jus, la manière de cuisiner avec le moins de matière grasse possible, même dans la cuisine gourmande, Guérard est celui qui l'a le mieux expliqué. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je pense qu'il est resté derrière ses fourneaux encore aujourd'hui avec la même passion.
On est bien d'accord. Il faut dire que vous avez grandi, étudiant, dans le quartier latin, dans une atmosphère, sur un terreau intellectuel particulièrement fécond. On est au mi-temps des années 70, à peu près 1974, vous entrez en Hippocagne à Louis-le-Grand, vous vous passionnez par tout ce qui est nouveau, forcément, il y a le nouveau roman, la nouvelle philosophie, et vous vous dites...
La nouvelle philosophie, c'est moins mon truc, la nouvelle critique aussi, enfin beaucoup de choses. Effectivement, on voulait être nouveau, mais la nouvelle philosophie nous a semblé un peu moins nouvelle de ce point de vue-là.
Mais cela veut dire que il y a quand même un climat assez fécond sur cette modernité dans laquelle la cuisine prend sa part, finalement. Vous vous dites que la nouvelle cuisine, ça a forcément un rapport avec ce qu'il y a de nouveau à l'époque.
Oui, oui, parce que la nouvelle cuisine veut secouer le caractère bourgeois, le caractère conservateur, le caractère parfois guindé de la cuisine. Il faut se souvenir de ce que pouvaient être certains restaurants à la fin des années 70, au début des années 80. Si vous arriviez sans cravate, on vous regardait, mais vraiment, des jeunes déjà, c'était bizarre, c'était une espèce rare. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et un de mes amis qui s'y intéresse aussi, c'est tout ce qui fait bouger cette tradition, tout ce qui donne l'impression qu'on peut réveiller la cuisine, qu'on peut appliquer des idées, au fond, venu des arts. Absolument. C'est-à-dire associer ce qu'on n'est pas habitué à associer, cuire moins, présenter autrement, se soucier de la vue, comme dans la cuisine japonaise. Barthes, que je lisais passionnément et que je fréquentais, avait écrit des pages sublimes sur la cuisine japonaise dans son
L'Empire des Signes. Impossible et donc, d'ailleurs de partir au Japon sans
l'Empire des Signes.
Ce petit ouvrage fabuleux, révélateur, l'Empire des Signes de Roland Barthes.
Et donc Barthes nous montre qu'on peut appliquer l'intelligence à la cuisine, qui est un domaine un peu sous-estimé. Et je suis frappé aujourd'hui, je me dis, mais au fond, j'ai vu la bande dessinée passer de l'état de sous-littérature, de sous-genre, à un genre littéraire et graphique reconnu, exactement au même moment que la cuisine est sortie de l'ombre, s'est réveillée et peut-être aussi s'est démocratisée, parce que je crois qu'on mange mieux en France aujourd'hui qu'au milieu des années 70.
Mais écoutez, la vie est bien faite, puisque ce sont vos deux passions que vous avez menées en parallèle. Dans cette autobiographie culinaire, vous êtes accompagné d'une partenaire de talent, Aurelia Orita. J'aimerais savoir sur quels critères on va dire la définition du poste pour le casting de la dessinatrice qui a mis en dessin les aventures de Benoît Peters, sur quels critères l'éditeur s'est fondé, votre capacité peut-être à goûter les plats de Benoît Peters ou ceux de la nouvelle cuisine?
En tout cas, le premier critère, je pense que c'est la
gourmandise. De savoir dessiner déjà. Non,
oui, déjà, oui. Puis en plus, comme je suis assez gourmande, c'était plus facile pour moi de dessiner le plat, parce que j'avais vraiment envie de les... Pendant que je dessinais, en fait, j'avais souvent l'eau à la bouche.
Travail de documentation absolument exceptionnel.
J'ai retrouvé pas mal de photos, mais Aurélia a fait des recherches pour retrouver les plats, parce qu'on voulait vraiment que les plats de chaque chef ressemblent à ce qu'ils étaient. C'est pas toujours simple.
Oui, alors là, j'imagine que vous avez dû plonger dans les archives de Google et bien ailleurs pour restituer véritablement les climats de certains restaurants, les dressages de certains plats de l'époque. Et on sent qu'ils sont parfaitement connotés. Nous qui avons un peu, pardon, nous ne sommes pas une autorité, on commence à l'avoir vu défiler, Elvira, Déborah, cette époque, on ne perçoit pas d'erreur ou d'anachronisme concernant la restitution de cette époque.
C'est gentil, j'en suis ravie. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des documents, notamment sur Internet, sur les archives de l'INA, notamment pour ce qui était de la première version du saumon à l'oseille des frères Troisgros, puisque ce plat qui s'est vraiment popularisé a beaucoup changé. Ça, on le voit très facilement en tapant saumon à l'oseille sur Google Images. Donc j'avais vraiment envie de coller au plus près de ce qu'était la réalité de l'époque, parce que je suis née en 1980, c'est pas une époque que j'ai connue, et c'est pour ça Internet a été formidable. Aussi pour tout ce qui était les gestes des cuisiniers.
Bien sûr, les gestes des cuisiniers, leur façon de tourner un légume, voilà. les dressages des plats. D'où est venu ce parti pris remarquable, intelligent, qui consiste pour faire ressortir les plats à ne réserver la couleur dans une bande dessinée en noir et blanc qu'aux plats et aux ingrédients?
Alors bon, je vais faire court, c'est le fruit d'une longue discussion éditoriale avec Benoît aussi. Au début, je voulais le faire entièrement en couleur, mais finalement, c'était mieux de le faire en noir et blanc, mais avec les plats en couleur. En fait, je n'imaginais pas faire un livre de cuisine avec les plats en noir et blanc, parce que la couleur participe beaucoup à l'émotion. C'est difficile en fait, ce qui est le plus difficile à reproduire en bande dessinée, enfin par le dessin, ce sont les goûts et les saveurs.
Bien sûr.
Et parce que c'est des sensations assez fugaces et c'est compliqué, mais certains écrivains aussi arrivent à le faire avec les mots, mais en termes de dessin, la couleur se prête.
Mais vous adorez cuisiner, ça se sent, non?
je me suis mise un peu sur le tard. J'ai commencé il y a 6 ou 7 ans j'aime bien improviser, mais j'aime bien aussi passer des journées. Ça commence le matin au marché, et puis à suivre à la lettre une recette.
Je trouve qu'on sent l'appétit dans les dessins, dans le trait.
Oui, et puis dans ces petits ramequins qu'il y a en face de nous. Il s'agit d'une mousse au chocolat dont on vous révèle dans un instant la recette, qui n'a pas trop de rapport avec la bande dessinée, mais qui illustre en tout cas votre plaisir de cuisiner au quotidien. Aurélia Orita, vous nous en délivrez le secret dans un instant. On vous a préparé une petite surprise, Benoît Peters.
Merci.
On a demandé à quelques voix amis de France Inter de jouer au micro une scène clé de votre bande dessinée. Été 1977, vous êtes sur la route des vacances à bord d'une voiture qui tombe en panne tout le temps avec votre copine de l'époque, Marie-Françoise. Vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous voilà en train de saliver devant la façade de l'hôtel-restaurant des Frères Trois Gros à Roanne.
Tu as vu le premier menu, 100 francs. Avec tous ces plats, on est loin des prix parisiens.
De toute façon, ils n'ont sûrement pas de place.
Bonjour madame, auriez-vous par hasard une table pour deux?
Pour le déjeuner, il est trop tard, mais vous avez de la chance, il vient d'avoir une annulation pour ce soir. Je vous réserve la table?
Bon, t'en as vraiment envie, c'est...
C'est une occasion qui se représentera pas. Alors, on n'aura qu'à faire attention les prochains jours.
Et la voiture, si elle nous lâche, on n'aura pas de quoi la réparer.
Elle tiendra bien une semaine. Pour être sûr d'avoir assez d'appétit, on n'a qu'à sauter le déjeuner. Hein, ça fera une première économie. En nous installant à table, nous mourrons de faim.
Et pour accompagner votre menu?
La carte des vins est immense, les prix élevés et notre ignorance extrême.
12 pages, rien que pour les Bordeaux rouges.
Bah, une bouteille de champagne. Votre cuvée maison.
Très bien, monsieur.
Madame, le foie gras des Landes et ses confits d'oignons et de figues.
Tu crois que le bord se mange?
Sans doute, s'ils le servent comme ça. Mais voici qu'arrive l'un des plats mythiques de la maison. L'escalope de saumon à l'oseille. C'est l'éblouissement. Presque comme Claudel à Notre-Dame. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Une première révélation de ce que peut être la cuisine.
Tu as goûté cette sauce?
J'avais lu une description, mais...
Et voici la côte de bœuf au fleuri à la moelle et son gratin forésien.
C'est un plat classique, bien peu nouvelle cuisine, mais si parfaitement exécuté, accompagné d'une sauce si courte et si parfumée qu'il en devient sublime. Arrive un immense chariot à fromage, dont la moitié n'est occupée que par des nuances de chèvre.
Une toute petite portion de celui-ci et aussi de celui-là. J'aurais pas dû manger autant de pain.
Et enfin, le grand dessert. Mille feuilles à la fleur d'acacia. 3/3 au chocolat. Tarte au melon.
Alors, heureux?
Je n'avais jamais imaginé que la cuisine pouvait ressembler à ça.
Merci à Alex Vizorek, Laurence Garcia, Hervé Pochon et quelques autres que vous avez sans doute reconnus, des voix de France Inter qui se sont prêtées à cette scène racontée par Benoît Peters et Aurélia Horita, Comme un chef, votre bande dessinée chez Casterman. Vous vous y retrouvez dans cette scène qui fut véritablement votre déclic.
Épiphanie, votre... on peut le dire.
Oui, c'est ça, une épiphanie, une révélation.
Préparée par des lectures et notamment la lecture de Guy de Goemio qui donnait une description très très lyrique de la chose. Je crois qu'il faut se préparer à un grand repas, on n'y arrive pas. Comme ça, il faut en avoir rêvé.
Il y avait le fantasme, la préparation avant.
Bah, on savait que ça se reproduirait pas si facilement, mais le réflexe bizarre que j'ai eu le lendemain matin, parce que nous avons passé la nuit dans la plus petite chambre, la petite chambre mansardée de chez Trois Gros, 62 francs. le matin, après ce petit déjeuner somptueux, j'ai acheté le livre des frères Trois Gros, cuisinier à Roanne, et le livre de Michel Gard, le seul qui était sorti à l'époque, La Grande Cuisine de ma sœur, et j'ai dit, bah, il faut qu'on s'y mette. Si la cuisine, ça peut être ça, pourquoi on n'essaierait pas soi-même? Et je m'y suis mis avec sérieux, avec obstination. D'abord tout seul, pour moi, puis en partageant peu à peu. Et ça, c'est, je crois, un réflexe assez bizarre. C'est comme si on se disait, tiens, j'ai vu des tableaux qui m'ont ému et le lendemain, je vais acheter des toiles et des couleurs et je m'y mets.
Mais la voiture n'était pas vraiment en panne. Vous êtes débrouillé. Qu'elle tombe en panne à ce moment-là.
La voiture, hélas, nous a lâchés deux jours plus tard. Et nous sommes, comme on le raconte, rentrés en stop. On était très, très... Oui, on était fauchés et en même temps... On avait vraiment cassé la tirelire pour le faire et je le regrette pas.
L'ivresse de la jeunesse. Et en 77, il faut dire que les voitures tombaient souvent en panne. On voit que vous êtes allé très loin dans l'apprentissage personnel à travers les livres de cuisine, les liaisons et les sauces. Vous apprenez tout cela par cœur, les techniques, les différents types de cuisson. Vous vous êtes vraiment, à ce point-là, concentré sur la chose culinaire, à travers des recettes que vous y écoutez d'ailleurs à des camarades qui passaient. L'histoire raconte que vous attrapez comme ça un ancien camarade de terminale à qui vous faites goûter des choses étonnantes que peu de jeunes avaient l'occasion de goûter puisque les restaurants étaient chers.
Oui, oui, et puis surtout, je me rends compte qu'il n'est pas vraiment intéressé. Il me dit après le repas, je m'étais quand même un peu cassé à préparer, il me dit, tu sais, pour moi, la qualité, j'ai rien contre. mais c'est surtout la quantité qui compte. Et effectivement, dans les moqueries qu'il y avait à l'époque sur la nouvelle cuisine, peut-être parfois sur ce que je préparais, il y avait l'idée que la nouvelle cuisine, c'était des grandes assiettes avec des petites choses qui étaient posées. On oubliait que souvent, c'était aussi des menus avec pas mal d'assiettes.
Oui. Évidemment, pas mal d'assiettes, mais cette idée quand même qu'il fallait cuire un petit peu moins les ingrédients, préserver leurs vertus nutritionnelles, utiliser un petit peu moins de matière grasse, moins de roux, évidemment, c'est joué un peu lourd.
La sauce
liée à la farine.
L'anasol rose à l'arête, par exemple.
Absolument.
Et ça faisait polémique. Et même ce fameux saumon des frères Trois Gros, cet escalope de saumon si dénaturé depuis qui est devenu n'importe quoi, et qui est devenu aussi un tic, un cliché, eh bien, c'était la cuisson, d'abord, qui faisait l'escalope de saumon.
À l'unilatéral.
Oui, une cuisson à peine snackée, sur des poils sans graisse. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand on fait, je faisais hier soir des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques, c'est d'abord la fraîcheur, et c'est ensuite la cuisson. Avant, qu'est-ce que c'était la coquille Saint-Jacques? C'était une pauvre chose noyée sous la sauce. Et vous savez, parfois, avec du gratin, puis on la remettait dans sa coquille, enfin tout ça. C'était extrêmement lourd, et la coquille, elle était fuyante. Je me souviens d'avoir goûté au restaurant Le Duc, qui était un des premiers à pratiquer cette chose.
Dans le 14e arrondissement.
Le carpaccio de coquille Saint-Jacques, cru. Et donc, là, on savait que la fraîcheur devait être parfaite, mais on découvrait ce que c'était une coquille Saint-Jacques.
Et alors, hier soir, c'était comment chez
vous ? Oui, la coquille Saint-Jacques, dans son plus simple appareil, à la table de Benoît Peters, ça se passe comment ?
Eh bien, écoutez, je l'avais accompagné d'endives, parce que vous voyez, j'ai trouvé des endives de pleine terre au marché, tout près de chez nous.
Avec et encore donc, le rhizome, la racine. Hein.
Si joli. Et puis alors, l'endive, dit aussi chicon, voire wheatloaf. C'est un légume qui est né en Belgique, étrangement, d'une petite erreur de botaniste. C'est né dans les serres du jardin botanique. Et c'est un légume qui parfois éveille des souvenirs de cantine scolaire, pas très bonne. Vous savez, l'endive bouillie, tristounette, comme et beaucoup de légumes le sont, est trop amère. Mais on peut la préparer de tant de façons, crue ou cuite, en trouvant, quand on l'a cuit, des manières de l'adoucir. Et c'est ça que j'ai fait hier. Donc, pour accompagner les Saint-Jacques, voilà, lui donner cette petite nuance sucrée sans ajouter de crème, car je suis de plus en plus réservé sur le fait de noyer dans le beurre ou dans la crème.
Signalons à nos auditeurs qu'on est en train de leur mitonner pour dans quelques semaines une émission, précisément le 4 février, me dit Laurent Thomas, ma réalisatrice au casque, une émission sur le chicon ou l'endive pour nous autres Français. Est-ce que par procuration, Aurélia Horita, vous avez pu profiter de toutes ces plaques? Par définition, vous n'avez pas pu goûter, puisqu'ils appartiennent à l'histoire, mais vous pouviez imaginer, en les dessinant à peu près, leur équilibre aromatique, leur goût.
En fait, ce que j'ai fait en dessinant, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on fait quand on lit un livre, c'est-à-dire que on doit se forger une image mentale à partir de son propre vécu sur des mots, qui font des phrases, etc., etc. Mais c'est pareil pour les aliments, c'est-à-dire que même si je ne suis jamais allée, par exemple, chez El Bouilly, j'essayais d'imaginer ce que c'était qu'un globe de gorgonzola. J'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu la préparation incroyable avec le ballon de baudruche qu'on gonfle, éclate après, c'est très ludique.
Expérience moléculaire.
Et donc, à partir du goût. Des goûts que je connaissais, j'ai pu me donner une idée. Et moi, j'aimerais bien un peu... Enfin, moi, j'ai toujours été impressionnée par les musiciens qui arrivent à écouter une musique rien qu'en regardant la partition. Et je pense qu'on peut faire ça aussi avec les goûts et les saveurs.
Très bien. El Bouilly, expérience de Ferran Adrià, le grand chef catalan, pape de la cuisine moléculaire, dont j'ai, comme vous, eu la chance de tester la cuisine. Cette expérience est évidemment racontée dans cette bande dessinée comme un chef. Venons-en, Aurélia Horita, s'il vous plaît, à cette chose dans les ramequins que l'on est en train de goûter. Vous m'en avez laissé ou pas?
J'ai commencé. J'ai juste goûté.
Ça va, Elvira. Ah, et vous ne goûtez pas, par contre, Déborah? Une mousse de chocolat, mais qui a quelque chose d'assez particulier. Vous avez également une cuillère. Benoît Peters.
Alors c'est une mousse de chocolat au tofu soyeux. Donc c'est une recette que j'ai commencé à faire il y a 2 ans à peu près.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de...
Il y a de l'œuf, mais seulement le blanc. Mais on peut s'en passer si on veut faire une recette 100% végane. Sauf que le blanc est quand même là pour aérer un peu la texture.
Donc blanc et tofu, ça veut dire que c'est très riche en protéines.
Oui.
C'est très vertueux.
Très riche en protéines. Et donc j'ai utilisé du chocolat à 71% de cacao, parce que j'adore le chocolat noir. Plus c'est concentré, plus j'aime. Je suis pas très dessert en fait.
Mais c'est bon, Déborah Dupont, un avis sur cette mousse?
C'est très très bon, et surtout la texture. Ouais. Ça, c'est l'avantage du tofu soyeux.
et qu'on a une onctuosité en bouche qui est absolument incroyable.
Et sur le dessus, j'ai mis, j'ai émincé des kumquats frais. Et puis j'ai mis aussi, alors ça c'est la petite touche japonaise parce que j'ai vécu 3 ans au Japon où j'ai découvert, en fait, mon épiphanie à moi, c'était le Japon.
C'est
ça. Et donc j'ai mis des écorces de yuzu confites.
Waouh, voilà. Qu'on peut trouver aussi en France dans certaines épiceries spécialisées.
Alors moi, je l'ai trouvé chez Macaviste, dans le 12e, qui fait aussi des produits comme ça. C'est un petit sachet.
Vous faites fondre à feu doux le chocolat avec le lait de coco, vous ajoutez le tofu soyeux, mixeur plongeant, vous mélangez le tout afin d'obtenir une crème bien lisse. Vous battez les œufs en neige, vous les incorporez délicatement à la crème de chocolat, vous versez tout ça dans des ramequins, vous laissez reposer 6 heures. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a effectivement la condimentation avec des agrumes.
Il n'y a pas de sucre.
Le sucre est présent dans la tablette de chocolat dessert. Non, il n'y a pas du tout de sucre.
C'est ça qui fait
plus. Bravo, très vertueux en plus.
C'est vertueux. Parce que vous savez qu'Elvira Masson entame, comme on sait, une cure healthy en bon français.
Je termine à 11h04 en
c'est
fait.
Ça. En tout cas, je vous félicite, elle est remarquable cette recette et je suis sûr qu'elle va avoir du succès auprès de nos auditeurs. À retrouver évidemment, vous l'avez très proprement rédigée pour nous sur franceinter.fr à la page On va déguster. Elvira évoque les recettes de Marguerite Duras.
Sur France Inter, on va déguster.
Vous voulez savoir pourquoi je fais la cuisine? Parce que j'aime beaucoup ça. On est un auteur quand on fait la cuisine. Moi, par exemple, il y a des choses que je suis unique en France à faire. L'omelette vietnamienne, ça commence à faire le nombre de gens qui me disent que c'est la meilleure chose qu'ils ont mangée de leur vie. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que je sois indifférente à ça?
Marguerite Duras, en toute humilité.
Voilà. Hein. Mais c'était bien la modestie qui qualifiait Marguerite Duras. Je vous en parle aujourd'hui de Marguerite Duras, car voici encore un écrivain qui, en dépit effectivement de sa... Peut-être on est habitué à sa vanité dans sa parole médiatique. C'est un écrivain qui aimait passionnément la cuisine. Et je vous en parle aussi parce qu'elle était éditée aux éditions de Minuit, en alternance avec Gallimard, puis plus tard avec POL. Alors les éditions de Minuit, c'est précisément la maison qui a publié votre premier livre, Omnibus, en 1976.
Là, vous parlez de Benoît Peters.
Bien sûr. Livre qui, je crois, est épuisé aujourd'hui.
Qui a été réédité ailleurs plus tard. Oui.
Alors j'ai pour ma part entre les mains un petit livre, édité non pas au Minuit, mais chez Benoît Jacob, son titre « La cuisine de Marguerite ». Et à la place du nom de l'auteur, figure simplement Duras, et non pas Marguerite Duras.
Ah.
Ce livre n'est pas épuisé, mais interdit. On le trouve très facilement, mais il est interdit de publication. Un petit peu de contexte, en 1999, soit 3 ans après la mort de Duras, son fils Jean Mascolo publie donc cette cuisine de Marguerite qui fait l'objet d'une demande d'interdiction d'exploitation de la part de Yann Andrea, compagnon de Marguerite Duras pendant les 20 dernières années de sa vie, et son exécuteur littéraire. Il obtient gain de cause en appel.
Et c'est quoi les motifs de la décision de justice?
Alors je les cite, nous étions en présence d'un ouvrage qui mélangeait des textes écrits par Marguerite Duras, les modifiait, les accompagnait de photographies qui n'ajoutaient rien et d'extraits d'entretiens inappropriés. L'ensemble n'était pas l'œuvre de Duras et ne pouvait donc pas être signé par elle.
Donc ce petit livre ne pouvait pas ou ne devait pas être signé Duras, mais il n'en a pas moins quelques mérites quand même.
Il nous rappelle justement que Marguerite Duras cuisinait beaucoup chez elle, chez Saint-Benoît.
Et de façon très humble et très modeste.
Très humble. Non mais vous allez voir, ses recettes, son répertoire est humble et dépourvu de prétention. Après ce qu'elle disait, être un peu différent. Dans sa maison de Nofle-le-Château, dans les Yvelines, alors elle en parlait volontiers, ses amis en parlaient, elle était connue pour ses plats classiques. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Benoît Peters.
Croisé, mais je n'ai pas eu l'honneur de manger.
Vous n'avez pas goûté son pot-au-feu, sa potée, son bœuf motte, son borch. Elle cuisinait aussi beaucoup de recettes inspirées de son enfance indochinoise. Je la cite, « On n'aime que le riz. La fadeur sublime a un parfum de cotonnade, du riz cargot, les soupes maigres des marchands ambulants du Mékong. Mm-hmm. » Alors les textes sont essentiellement des extraits d'entretiens radiophoniques et également des textes issus de son cahier de recettes. Cahier un peu griffonné qui a été retrouvé par son fils qui a édité ce livre, c'est le cahier du camion, le camion qui se filme qu'elle a réalisé avec Gérard Depardieu. Et comme Marguerite n'aimait rien jeter du tout, ça a été presque obsessionnel de ça, elle paniquait de ça, son cahier de tournage du camion, il lui restait des pages, elle l'avait à peine entamé, donc c'est devenu son cahier de recettes. On retrouve également dans ce livre, outre ces extraits d'entretien radiophonique, des petites phrases qui sont très très révélatrices de son côté un peu sentencieux, mais à la fois assez...
Pas dénué d'humour,
vraiment pas dénué d'humour. Je la cite. « Le steak, ça sera toujours comme la tragédie, mais à des degrés différents. Et comme pour la tragédie, on peut toujours essayer.
» Eh bien, vous allez essayer précisément.
Voilà. 30 recettes.
Non pas un steak, mais une recette de...
Une recette précisément plutôt inspirée de son enfance. 30 recettes parmi lesquelles celle-ci, la salade chinoise. Je vous laisse goûter.
Et vous l'avez apporté, vous l'avez faite. Ah, il y a des morceaux de saucisse.
Tenez, Déborah.
Oh, c'est bon.
Je la cite. Voilà, il faut 14 produits, les voici. Du riz déjà cuit, froid, mais pas desséché. Acheter du riz parfumé dans les boutiques vietnamiennes. Germes de soja cru ou légèrement passé à la poêle. Citron, noix kmam, sucre, une demi-cuillère à café. En dehors de la demi-cuillère à café pour le sucre, elle ne donne aucune proportion. On se débrouille. Cacahuètes écrasées très fin. Bon, les miennes ne sont pas très, très fines. Bananes vertes, bien les laver.
Bah là,
garder la peau pour son âpreté. Ça, je m'en suis passée parce que j'ai pensé que la banane verte avec la peau, je n'allais pas m'en sortir. Mm-hmm. Concombre coupé en rondelles avec la peau. Champignons noirs. Huile et vinaigre, pas trop. Viande de porc pas maigre et revenue à la poêle. Ail râpé, une seule gousse. Ciboule, menthe verte et coriandre hachée dans le plat. Et sur la table, quelques branches entières de menthe. On doit servir avec du piment séparé du plat. Et le mot de la fin, si vous n'aimez pas le nuoc mam, ne faites pas le plat, rien ne peut le remplacer.
Il faut du nuoc mam qui est donc cette préparation de poisson pourri hein, à base d'anchois ou d'autres poissons fermentés. Alors, ai-je le droit de vous adresser, en toute sincérité, pour une fois, mes félicitations.
C'est cadeau, je prends.
Non, c'est pas délicieux.
C'est très bon.
C'est long en bouche, il y a les herbes fraîches. Ça, on est un peu dans les goûts d'un boboune. Hein,
oui.
Avec
oui,
cette idée qu'à la place des nouilles de riz, il y a le riz lui-même.
Alors
qu'est-ce
moi,
que vous
je me permets d'intervenir en tant que française d'origine sino-khmer.
D'accord.
Et vraiment, votre salade, ça me rappelle des goûts que j'ai goûtés dans mon enfance, la cuisine de ma grand-mère notamment. Et vraiment, c'est très réussi.
Bon, elle vient se mettre à pleurer.
Voilà, et en plus, ce livre, La cuisine de Marguerite, je l'ai lu, je l'ai acheté, j'ai fait une recette. Et enfin, moi, j'adore Marguerite Duras. Je suis même allée sur les ruines de sa maison au Cambodge, près de Cap. Et donc, j'avais fait sa recette du pâté de foie de volaille au Porto et aux quatre épices.
On essaiera de vous la passer,
c'est très facile, c'est vraiment très simple à faire.
En tout cas, la recette de Marguerite Duras est à retrouver sur le site internet de l'émission. Joli coup, hein, Elvira. Je dois dire que...
je reviendrai alors.
Dans le niveau culinaire des chroniqueurs dont on va déguster, vous gagnez au moins 15 places. Non, c'est absolument fabuleux. C'est très bien, franchement, c'est délicieux. C'est vraiment très très bon. Félicitations. Petite question sur ce livre. Je m'adresse à la libraire, Déborah Dubon. Est-il trouvable ? Il est interdit, donc ça veut dire qu'il peut, il peut circuler sous le manteau ?
C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas en librairie,
mais
puisque
sur Internet,
les libraires ne peuvent pas le commander officiellement.
C'est ça.
En revanche, il y a un marché de l'occasion, donc sur des sites Internet comme Price Minister, Le Bon Coin, eBay, on trouve tout ça. Et puis
comme
bien évidemment,
fait,
dans les brocantes, les vides-greniers, il faut chiner hein, sur
faut
les
chiner.
Livres, et les livres de cuisine notamment.
Absolument.
On a des vraies petites perles à découvrir.
C'est un très joli petit livre, il n'aurait simplement pas dû être signé Duras.
Exactement.
Benoît Peters, poursuivons dans cette aventure de Comme un chef aux éditions Casterman avec le climax de votre carrière de cuisinier amateur. C'est un dîner avec le philosophe, sémiologue, qui fut d'ailleurs votre prof. On cite
Roland Barthes.
Roland Barthes, évidemment.
Alors, grand ami de Marguerite Duras.
ils avaient des rapports un peu complexes.
Oui,
j'étais l'étudiant de Barthes dans les dernières années de sa vie, ce qu'on n'imaginait pas être les dernières années de sa vie, puisqu'il est mort très tôt, trop tôt. Et un jour, je lui propose imprudemment de venir dîner.
Voilà, n'en dites pas trop, justement, puisque là encore, nous avons mis en voix cette scène clé de votre aventure en bande dessinée.
Roland Barthes, dont je suis devenu l'élève à l'école pratique des hautes études, a écrit des pages sublimes sur la cuisine japonaise dans l'Empire des Signes et une belle préface de la physiologie du goût de Brillat Savarin.
Du bouzy ? Uniquement sur commande ?
Désolé, nous ne faisons pas ce vin.
Tiens, peut-être qu'ici. Merveilleux ! Je l'invite à dîner un soir et me fais prêter l'appartement d'un ami pour mieux le recevoir. Je me suis aidé des « j'aime, je n'aime pas » et du Roland Barthes par Roland Barthes pour composer le menu de l'entrée au dessert. Déjà...
Oui. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, il me reste quelques préparatifs à effectuer. Voulez-vous un verre de bouzy pour patienter ?
Oh, quelle bonne idée.
Oh, un impromptu de choubet. Voici une salade de pousses d'épinards aux coquilles Saint-Jacques.
Ça tombe très bien, j'aime beaucoup les coquilles Saint-Jacques.
Un avarin d'agneau printanier, mais sans un gramme de farine.
Oh.
Et pour terminer, une soupe de pêche à la menthe.
Je ne vous connaissais pas tous ces talents. Vous êtes donné beaucoup de mal, Benoît. Merci.
Oh, c'était vraiment un plaisir. Quelques jours plus tard, Jean-Christophe croise Barthes et recueille ses commentaires sur mon dîner.
Je t'assure que c'est ce qu'il m'a dit. Un repas très fin, très délicat, mais peut-être un rien ascétique.
Ascétique ? Je revois Barthes un soir, rue du Cherche-Midi, sortant de chez Dumonet, un restaurant de viande à la broche, de foie gras et de gratin, bien loin de la nouvelle cuisine. Il a l'air épanoui d'un homme qui a mangé plus qu'à sa faim. Fragile, délicat, mélancolique, Barthes était aussi un homme du Sud-Ouest, qui ne traquait pas forcément la modernité jusque dans son assiette.
Avez-vous reconnu la voix de France Inter qui joue Roland Barthes ?
Oui.
Ah bon ?
Un grand gourmand.
Oui.
Ami Laurent Delmas, ami oui. de l'émission.
Absolument, Laurent Delmas.
Monsieur Cinéma,
on
le samedi matin.
On avec Christine Masson le samedi matin. Alors cette pièce radiophonique réalisée par Laurent Thomas ne vaut pas tout à fait les dessins d'Aurélia Horita, mais ça nous plonge dans l'ambiance de ce dîner dont vous êtes sorti finalement un peu déçu.
Non. On a passé une très belle soirée. Je crois que mes plats étaient bien, mais effectivement... C'était vraiment un homme du Sud-Ouest, et je pense qu'il aimait les nourritures un peu plus roboratives, même s'il y a cette très jolie phrase qui clôt le chapitre, cette phrase qui vient du Roland Barthes par Roland Barthes, « Maigrir est l'acte naïf du vouloir être intelligent ». Barthes magnifique. A fait toute sa vie des régimes, mais en même temps, il n'était pas gros, mais disons légèrement enveloppé, confortable.
Célèbre phrase de Roland Barthes qu'on peut retrouver dans votre livre. Ça n'a pas été trop compliqué de portraiturer Roland Barthes pour les besoins de la bande dessinée, Aurélia Horita ?
Ah, mais j'ai adoré faire le portrait de Roland Barthes. J'ai passé des heures à regarder des interviews de lui sur Internet encore, et surtout écouter sa voix parce que c'était important pour moi d'entendre bien sa voix, parce que la voix fait partie du corps.
Et oui.
Et donc, en écoutant sa voix, j'avais l'impression de pouvoir mieux restituer ses postures corporelles, sa manière d'être. C'est une personne que j'ai plus aimé dessiner dans ce livre.
Très bien, vous deviez avoir un peu le trac quand même à l'idée de recevoir Roland Barthes en cuisine. Est-ce que ça va foirer?
J'étais un jeune homme imprudent. Je me suis lancé dans toutes sortes d'aventures bizarres. Et quand j'ai préparé les repas comme cuisinier rémunéré chez des particuliers, les repas de fête où il fallait en même temps servir 12 personnes, c'était très très téméraire aussi, parce que vous arrivez dans la cuisine de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous ne connaissez pas la puissance du four, vous ne savez pas si vous allez avoir exactement le nombre de plaques qu'il vous faut. Et je dois reconnaître que quelquefois je me cassais la figure, c'était difficile. Il y avait ce plaisir de préparer pour 4 ou 6 amis un repas en prenant son temps, et puis l'attente pour un repas de Noël ou un repas de communion, de mariage, c'est tout à fait autre chose. Et là je dois dire que j'admire tellement les cuisiniers qui, jour après jour, midi après midi, soir après soir, maintiennent ce niveau de perfection.
Et on voit d'ailleurs qu'il y a parfois quelques ratages dans les prestations que vous avez faites pour des familles en Belgique. Tout cela est raconté évidemment dans votre bande dessinée.
Si vous préparez un repas chez des gens, ne mettez jamais un soufflet en dessert au menu.
Évidemment.
Jamais.
La recuisson pour un soufflet, c'est très compliqué.
On attend le soufflet et c'est pas à la clochette qu'on peut l'apporter au bon instant. Et j'ai été sonné 2 fois et je n'ai pas été rappelé.
Vous comprendrez bien qu'on ne vous reprenne pas.
Oui, c'est des expériences sociales aussi, c'est important.
D'où le four que vous vous êtes pris effectivement chez cette famille aristocratique à Bruxelles. On passe à Déborah Dupont.
On va déguster.
Débo. Alors.
Alors, eh bien, que mange Débo, le chef
c'est brûlé.
Oui, Débo, c'est un petit peu
brûlé.
Oui, Débo,
c'est brûlé, un dépensement sur la main gauche.
Oui, j'ai un peu 3 doigts cloqués, mais on va dire que ce sont les risques du métier. Disons que voilà, entre la cocotte en fonte et les doigts, c'est la cocotte en fonte qui gagne quand elle est chaude.
C'est ce qui s'est passé.
Donc en fait, j'ai testé une recette du livre vraiment très intéressant, un petit coup de cœur de cette fin d'année 2017, début 2018. Le dimanche des chefs, une coédition, Le Parisien Magazine et Larousse, puisqu'en fait, Le Parisien Magazine, donc l'hebdomadaire, a eu la bonne idée d'envoyer son journaliste Rémi Dechambre à la rencontre des plus grands cuisiniers français pour leur demander quel est le plat qu'ils ont plaisir à présenter à présenter ensuite à leur famille, à leurs amis, le dimanche.
Chefs en mode off, en quelque sorte.
Voilà, en mode dans leur cuisine à eux, alors qui effectivement est un peu mieux équipée que la cuisine standard, mais qui est quand même très loin d'une cuisine professionnelle.
Et donc les éditions Larousse ont proposé dans cet ouvrage une compilation en fait d'une quarantaine de recettes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur en fait est vraiment allé à la rencontre des chefs. Et donc on a aussi des témoignages sur comment est-ce qu'ils cuisinent, pourquoi, des anecdotes et des choses qui parfois sont des témoignages personnels et assez éloignés de la cuisine. Donc ça se lit très bien. Mm-hmm. Et mon petit coup de cœur, oui, ça a été une recette de tarte tatin de Michel Rostand.
Ah.
Alors pourquoi choisir cette recette? Déjà parce que moi, la famille Rostand, j'aime beaucoup. Donc Michel Rostand, grand chef étoilé, et ses deux filles, Caroline et Sophie. Et donc, il raconte très bien que les dimanches en famille, pour lui, c'est aussi emblématique d'un moment où on décroche du quotidien de travail, où on parle d'autre chose, et puis on est dans la convivialité. C'est vrai que la tarte tatin, pour moi, ça a quand même cet aspect réconfortant.
Brûlant.
Et la particularité, donc là, c'est que cette recette, en fait, il l'a fait non pas dans un plat à tarte tatin, mais dans une cocotte. Donc ça m'a un petit peu interpellée, dans des petites cocottes individuelles. Donc recette très simple, alors attention, pour 8 personnes, 4 kilos de pommes.
Ah quand même.
Pour 8 personnes, 4 kilos de pommes. Il faut qu'on fasse 500 grammes par petite cocotte.
500 grammes de pommes par personne.
Voilà.
Alors attendez, juste une question. Si on n'a pas des cocottes individuelles, on peut éventuellement s'arranger dans une cocotte familiale.
J'avoue, les cocottes individuelles, je n'en avais pas 8. Donc j'ai fait 2 petites cocottes individuelles et ensuite j'ai fait la cocotte familiale à côté.
D'accord, très bien.
Ça fonctionne très bien. Donc 4 kilos de pommes.
Oui.
Lui conseille des Granny Smith ou des pommes qui se tiennent, type des clochardes, donc pour conserver un peu de mâche. 200 grammes de beurre, 500 grammes de sucre. Jusqu'ici tout va bien. Et 350 grammes de pâte brisée, sablée ou feuilletée, au choix.
Oui.
Donc, vous pelez, vous épépinez les pommes, vous les coupez en quartier. Dans vos cocottes, vous mettez le beurre et le sucre que vous avez émietté. Vous rajoutez vos pommes coupées en quartier dessus et vous enfournez. Alors, c'est là le petit bémol que j'aurais. C'est que moi, mon beurre a commencé à mousser, à déborder des cocottes dans le four. Donc, je vous raconte
le carnage. Parce qu'on ne fait pas de caramel préalable comme on le ferait traditionnellement. Et en fait,
tout se passe dans la cocotte.
Tout se passe dans la cocotte. Donc, du coup, j'ai essayé de sauver effectivement la sole de mon four qui commençait à fumer, à noircir. Et puis, à un moment,
c'est un fait divers que vous racontez.
Complètement, le réflexe malheureux, j'ai une cocotte qui a commencé à glisser une petite et je l'ai rattrapée en fait à plein moment. Donc, je n'aurais pas dû.
Et vous avez jonglé avec.
Vous avez utilisé.
Là, j'ai utilisé des granits.
Ah oui, parce qu'elles sont très fondues, on les imaginerait plus fermes, plus résistantes.
Et ça donne une petite acidité parce que je trouve que pour une tatin, elle n'est pas très sucrée. Parce que souvent, les tartes tatin sont très, très sucrées.
Et c'est d'une qualité.
Ouais. Et donc ensuite, on fait cuire 1h30 quand même.
Alors attendez, juste, on a mis les pommes et on recouvre d'un chapeau.
Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
On fait d'abord compoter. Et en fait, toute l'astuce, c'est que les pommes vont réduire au fond de la cocotte et au fur et à mesure, on en rajoute. On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et on se retrouve donc avec une épaisseur de pommes de 4 cm à peu près et je pense que c'est même une tatin qu'on peut manger directement à la cuillère dans la cocotte.
C'est vraiment une tarte tatin confite quoi,
complètement
compotée.
Il a fini sa part.
Mais moi aussi
Benoît Peters, vous aimez ou pas?
Oui, c'est très bon. Moi je fais la tatin au poire et je la garde assez ferme, assez croquante, mais c'est délicieux, c'est autre chose. C'est effectivement une compotée.
La pâte est délicieuse.
Oui.
J'ai pris une pâte brisée toute simple.
Ouais, mais très bonne.
Vous l'avez goûtée ou pas, Aurélia?
Ah oui, c'est très bon. Les pommes sont fondantes.
Vous l'avez faite, votre pâte, quand même.
Bien sûr.
Ah oui.
Faite hier soir.
Bravo, bravo, bravo. Et merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, malheureusement. Benoît Peters, Aurélia Horita comme un chef. Une bande dessinée, une autobiographie culinaire aux éditions Casterman Collection Écriture. Benoît Peters et Aurélia Horita, d'ailleurs, vous serez en dédicace le vendredi 26 janvier de 11h à 13h30 et le samedi de 10h à 11h30 au Festival d'Angoulême, dont France Inter est partenaire. Merci encore à Alex Vizorek, Laurent Delmas, Laurence Garcia, Hervé Pochon, Virginie Rouzic. Merci à l'ami Stéphane Ronxin pour nous avoir aidé à fouiller dans les archives de Bocuse hier. On était un petit peu pris par le temps. Retrouvez-moi aussi pour une rencontre dédicace autour de notre livre On va déguster la France ce mercredi 24 janvier à 17h à la librairie Le Furet. Je serai en compagnie de Marie-Laure. Je serai en compagnie, excusez-moi, il n'y a pas de liaison. Je serai accompagné par Marie-Laure Fréchet. Voilà, ça va beaucoup mieux. La semaine prochaine, crêpes et cidre. On va déguster, faites dignement la chandeleur avec notamment le chef Thierry Breton, que vous aimez bien, Elvira.
Formidable, oui.
Merci Elvira, merci Déborah, merci à tous. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.